Bonjour à tous, je suis Katerina Kuzmenko, responsable développement durable et innovation du groupe Cardam et membre du board de Young Leaders sur Air France. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre série baptisée « Mise à l'honneur ». À travers cette série, co-dirigée ensemble avec Jean-Baptiste Budan et Farah Alabed, le board de Young Leaders UL France souhaite mettre en avant les profils passionnants qui, par l'orientation de leur carrière, la diversité de leur parcours ou bien leur initiative entrepreneuriale, font la richesse des Young Leaders. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Laurence Desmazières, directrice générale d'Ecawood, un fonds de développement et de restructuration de mobilier bas carbone. Laurence, bienvenue, comment vas-tu?
Bah, très bien, merci Katia, merci de m'avoir dans ce podcast.
Donc Laurence, tu as un parcours initialement venant d'ailleurs de l'industrie immobilière, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait.
Peux-tu nous présenter ton parcours s'il te plaît et de dire comment et pourquoi tu as choisi l'industrie d'immobilier?
Alors j'ai commencé à travailler d'abord en banque d'affaires, donc pas du tout dans le secteur de l'immobilier. J'ai commencé chez Morgan Stanley en 2013, dans les équipes de Equity Capital Markets. Je faisais de la structuration de produits dérivés pour le compte de grandes sociétés, pour le compte de fonds de private equity, de fondateurs de sociétés. Ça va pas forcément parler à beaucoup d'entre vous, mais pour vous donner un exemple de ce que je faisais par exemple l'émission d'obligations convertibles en actions, donc pour des entreprises qui cherchaient du financement sur les marchés. C'est un métier qui était très très passionnant sur le plan intellectuel parce que hyper technique, très mathématique aussi. Et j'aime bien les maths. Et en plus de ça, c'était un métier de où il fallait porter ses convictions. Et quand on était banquier, c'était un métier aussi où on prenait du risque. Parce qu'en fait, c'est des opérations dans lesquelles la banque est vraiment une contrepartie du client. Et donc, il y avait tout un tas de personnes à convaincre en interne de faire les transactions qu'on proposait. Et ça, c'était quelque chose qui me plaisait, d'aller porter une conviction et convaincre qu'il y avait un deal à faire et que c'était un bon deal. Après, c'est un métier qui est très... très déconnecté finalement du terrain, déconnecté du concret, parce que ça reste un métier qui se fait beaucoup derrière un écran et sur des modèles Excel. Et c'est vrai que c'était quelque chose qui me manquait, et notamment le simple fait que quand ma grand-mère me demandait ce que je faisais, j'étais incapable de lui expliquer avec des mots simples la nature de mon métier. Et donc, je me suis dit, je vais essayer de trouver quelque chose qui soit plus concret, plus palpable. J'ai fait un peu après de M&A, toujours chez Morgan Stanley. Ça n'a pas duré très longtemps parce que être dans le rôle du conseil, en fait, j'y trouvais moins de passion, moins d'adrénaline aussi. Donc je me suis dit je vais regarder du côté du private equity parce que le private equity par définition c'est être investisseur, donc investir, prendre des risques, parier sur des projets
peux-tu dire peut-être un peu plus qu'est-ce que ça veut dire private equity?
Le private equity c'est tout simplement l'investissement qui n'est pas coté en bourse, donc c'était pas forcément immobilier, mais il se trouve que il y a du private equity immobilier. Donc c'est exactement ça, hein. C'est on monte un fonds d'investissement, on rassemble du capital, et puis au lieu de prendre des participations ou de racheter des sociétés en tant que telles, on rachète des projets immobiliers ou développe des projets immobiliers. Bref, on achète de l'immobilier. Et le but étant de créer de la valeur à partir de cet immobilier.
Et c'est vrai que quelqu'un m'a dit, je sais plus qui, que dans le real estate, ton investissement, il est vraiment real. Et du coup, j'ai l'impression que c'est un peu ça que t'as cherché.
Complètement. Exactement. C'est vraiment real. Et c'est pas, encore une fois, je considère qu'un bon investisseur en immobilier, c'est pas quelqu'un qui, en fait, modélise son immeuble sur un cash flow Excel et qui s'arrête là. C'est vraiment quelqu'un de terrain. Qui est capable, en allant sur place, de voir en fait quels sont les atouts, ou bien les défauts d'un immeuble, ou en tout cas le potentiel d'un immeuble, qui derrière, après, bien sûr, c'est de mettre tout ça en musique et regarder financièrement parlant si ça marche ou pas, mais c'est d'abord et avant tout vraiment un métier de terrain. Et puis avec une forme de bon sens paysan, d'une certaine façon, c'est vraiment aussi un métier de bon sens, même s'il y a une très forte financiarisation de l'activité, évidemment, c'est un métier dans lequel il faut continuer à avoir du bon sens pour pas se planter, en fait. Parce que si on réfléchit au sujet uniquement par le prisme finance, on peut aussi passer à côté de choses très très concrètes. Et l'immobilier, bah, c'est un actif qui existe et en fait qui tire sa valeur de sa désirabilité et de son usage. Donc ça, c'était un truc qui me plaisait. Et donc voilà, donc je cherchais en private equity. Et puis en fait, de fil en aiguille, j'ai croisé la route de Guillaume Poitrinal et d'Alexandre Aquin, qui avaient monté ICAMAP, donc société de gestion, qui gérait un premier fonds d'investissement, qui avait des équipes basées à Luxembourg et à Londres, et qui cherchait quelqu'un pour lancer les activités d'ICAMAP à Paris et monter un fonds d'investissement qui puisse faire du développement et de la restructuration bas carbone dans le Grand Paris. Et donc ensemble, on a monté cette activité. Ça fait maintenant 6 ans, ouais, 2-3 mois. Ça fera 6 ans qu'on travaille ensemble. Et là, j'ai repris en octobre de directrice générale pour toutes les activités du fonds. Et donc, je m'occupe vraiment de panel très très large entre les relations investisseurs, les montages, la gestion des investissements, la gestion des financements bancaires, tout l'asset management, évidemment. Ouais, c'est vraiment 360 degrés.
Incroyable. Donc, merci pour cette présentation. Donc, tu nous as dit un peu rapidement qu'est-ce qui te plaisait dans l'industrie immobilière, mais peut-être tu peux résumer en 2-3 mots. Donc, finalement, voilà, qui est, tu es directrice générale d'un fonds d'investissement à Paris, dont l'ADN, c'est faire du bas carbone. Et donc, qu'est-ce que tu trouves toujours passionnant dans ton travail?
Alors, moi, ce que j'adore dans mon métier au quotidien, c'est d'abord que, donc ce que je disais, hein, c'est que l'immobilier, c'est très concret. Je trouve que c'est assez, gratifiant, juste de se promener dans la rue et de voir, en fait, le fruit de son effort quotidien en train de se construire. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on a, qui existe dans plein d'autres métiers, plein d'autres secteurs, évidemment. Mais c'est vrai que l'immobilier, pour ça, c'est un côté un peu magique. Et puis en plus, c'est quelque chose qui nous dépasse, quoi. Peut-être, si les immeubles sont bien conçus, nous dépassera même au-delà de notre vie propre, quoi. Parce que en fait, c'est des temps hyper longs. Donc, je trouve que c'est hyper intéressant. C'est un côté monumental, c'est le patrimoine, c'est l'histoire, quoi. Et puis l'immobilier, en plus, ça parle à tout le monde. On a tous une forme d'appétence pour l'immobilier. Déjà, juste on a notre chez nous.
tout à fait.
Donc ça, je trouve que ça connecte vraiment à quelque chose de très prosaïque, en fait, de très quotidien chez les gens. Et puis le dernier point, c'est que je trouve que intellectuellement et notamment pour des jeunes qui cherchent des métiers assez concrets. Le métier d'investisseur en immobilier, c'est un métier où on doit jongler en fait avec tout un tas de concepts, tout en même temps en regardant les plans de l'immeuble qu'on est en train de concevoir, regardant des sujets de déco. Donc il y a aussi un élément très subjectif, en fait, j'aime ou j'aime pas. C'est un métier hyper complet. Et en tout cas, moi, quand je suis sortie d'école, je ne soupçonnais pas à quel point c'était un secteur qui pouvait apporter et ouvrir comme ça un champ des possibles aussi gigantesque.
Super, très intéressant. C'est une question un peu improvisée peut-être, mais du coup, quelle est ta relation avec les architectes et les ingénieurs? Parce que du coup, ton dernier point, c'était autour de l'esthétique, peut-être de l'immeuble, et tu parlais aussi que c'est très agréable dans la ville. de retrouver les immeubles qui t'a créé en quelque sorte en tant qu'investisseur. Mais du coup, quelle est ta relation avec l'architecture?
Alors, pour moi, il y a deux questions. Il y a quelle est la relation avec les architectes ou avec l'architecture? c'est pas exactement la même.
C'est une très bonne distinction. Bah, allons-y. Commençons par les architectes.
Non, mais alors, évidemment, on regarde, on en discute ensemble, on redrive si jamais on considère qu'il y a tel ou tel élément qui ne va pas. On a tendance à être assez prescriptif avec nos architectes. Parce qu'on a des convictions produits très fortes. Nous, notre cœur de métier, c'est de faire des bureaux. On pense que il y a vraiment un angle, en fait, pour faire des bureaux qui soient en rupture totale par rapport aux bureaux qu'on a construits depuis toujours. Donc, et tu me demandais quelle est notre relation avec l'architecture. Nous, notre volonté, c'est de faire des espaces qui soient d'abord et avant tout pensés pour le confort des utilisateurs, la personne qui va aller travailler tous les jours ou trois fois par semaine en fonction de ses accords de travail, mais qui va aller à son poste et qui va vraiment travailler dans les lieux. Et donc pour ça, on préfère mettre notre argent et investir notre argent dans ce qui se voit et ce qui est utile au confort plutôt que dans des grands gestes architecturaux qui peuvent être parfois très coûteux et qui finalement, du point de vue de l'usage, vont pas forcément avoir un intérêt fou. Donc voilà. Donc ouais, nous notre relation à l'architecture, c'est une relation qui est. Pour nous, l'architecture c'est essentiel et je pense que c'est ça qui fait la pérennité du bâtiment. On parle beaucoup de réversibilité en ce moment. On parle beaucoup de la capacité des bâtiments à changer d'usage, etc. Je pense qu'effectivement, c'est une question qui est importante, mais au-delà de ça, pour nous, la vraie question, c'est de se dire, un bâtiment, s'il est bien conçu pour l'usage pour lequel il a été conçu, finalement, il sera pérenne dans le temps et il n'y a pas de raison que son usage ait vocation à changer si vraiment il est parfait pour son usage sur très 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 long terme.
Mais du coup, t'as un peu répondu partiellement à ma question suivante. C'était autour des challenges de l'industrie, parce que bon, là, la situation actuelle me force quand même de poser cette question à l'acteur du marché comme toi. Donc, si je résume, t'as cité l'usage. Je pense qu'en effet, en tant que l'acteur de l'immobilier tertiaire, enfin, on est tous un peu basculés par l'usage, par les nouveaux modes de travail. Donc, décarbonation et globalement les enjeux environnementaux autour de ce type de foncier et ce type de mobilier, réversibilité. J'ai bien compris ton positionnement dans ton activité à toi, mais plus globalement, si on zoom out en fait sur l'industrie, comment tu vois cette démarche possible? Parce que moi, je suis convaincue que c'est l'opération destructrice de la valeur quand on fait la réversibilité et que du coup, le frein, elle est principalement là, en fait. C'est que personne ne veut perdre les valeurs de leur mètre carré, même si c'est les bureaux très peu utilisés. Et donc, en tant qu'archi-ingénieur, moi, je suis persuadée que ce n'est pas le problème architectural, structurel. Je pense que c'est purement financier. Donc, du coup, je profite de cet échange pour avoir ton avis sur cette thématique qui, quand même, je trouve, prime aujourd'hui le secteur.
En fait, si tu veux, quand tu t'accroches à des valeurs qui sont des valeurs en bureau, c'est bien tant que t'as un loyer dessus, tant que t'as quelqu'un qui est prêt à prendre à bail et à louer ton immeuble. Faut pas oublier que l'immobilier en soi n'a pas de valeur si c'est inlouable. Ça n'a pas de valeur.
Oui, bien sûr.
Donc en fait, la question de la réversibilité, enfin la question de la capacité à convertir une partie du stock existant en autre chose. Ça, c'est une question qui est évidemment essentielle aujourd'hui et dans un marché en crise tel qu'on le connaît, qui va devenir de plus en plus clé. Et donc, effectivement, moi, je pense vraiment que on est dans un trend et je pense que le Covid a eu un effet d'accélérateur, mais d'une certaine façon, un trend qui aurait existé de toute façon et serait allé vers ce résultat in fine, mais c'est que t'as une forme de
en tout cas en bureau, tu vois, tu vas avoir une forme de destruction créatrice. Donc, c'est-à-dire que avec le télétravail, avec la nouvelle façon de réfléchir, avec l'émergence de toutes les obligations environnementales pour les locataires, tu vas avoir mécaniquement une partie du stock de bureaux qui probablement va perdre sa valeur.
Oui, qui sera obsolète.
Parce que totalement obsolète sur le plan environnemental, pas du tout adapté aux usages, t'es à un kilomètre, ce qu'on disait tout à l'heure, de la première gare. Et donc, en fait, de toute façon, c'est des actifs où même si les propriétaires aujourd'hui n'ont pas forcément envie d'entériner cette perte de valeur, in fine, si ce sont des mètres carrés qui ne trouvent pas leur marché sur le plan locatif, parce qu'en fait plus personne ne peut louer, et ben ce seront des mètres carrés qui auront vocation à disparaître.
Ouais.
Donc je te rejoins sur le fait que voilà, après c'est pour moi c'est une question de temps. Puis c'est toujours pareil, ça dépend du propriétaire. Quand t'es propriétaire, si t'es pas forcé à vendre,
ouais, bien sûr,
entériner une perte de valeur, donc tu peux garder. Mais l'immobilier vide, ça coûte. Parce qu'il faut payer du portage, des taxes, etc. Donc ça coûte.
Oui, donc autant de changer la destination et perdre une partie de la valeur en plutôt que de garder un immeuble vide et en perdre la totalité. Ok, donc merci Laurence pour le partage de tes visions et de ton parcours très inspirant. Nous discutons, je vous dis, dans le cadre de série de podcasts créée par ULI France. Et donc, pour finir notre échange, pourras-tu nous dire comment tu as connu le réseau de ULI, depuis quand tu en fais partie et qu'est-ce que tu apprécies le plus?
Écoute, ULI, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était par plusieurs de nos investisseurs qui sont des membres de ULI, notamment les équipes de Ivanhoe et Cambridge. On a décidé de rejoindre l'association. Je trouve que c'est assez magique en fait d'avoir une association avec autant de membres qui viennent de sous-secteurs très très différents au sein de l'industrie immobilière, parce que il y a pas mal d'associations, de clubs, ou en bref,
de tout type de réseaux
qui permettent, qui vont mettre ensemble bah, tous les investisseurs, les architectes, ou tous les promoteurs par exemple. Mais ce qui est intéressant dans ULI, c'est ce côté transverse et puis la capacité du coup à rencontrer, à échanger avec des gens qui sont dans le même secteur que nous mais qui font pas exactement la même chose, donc qui ont des visions parfois un peu différentes. Donc ça, je trouve que c'est très intéressant. Après, c'est un super réseau de networking. Dans notre métier, ce que je disais en préambule, hein, c'est un métier de relations humaines. Donc, c'est hyper essentiel et c'est très, très important que des réseaux comme ça existent. Ça, c'est vraiment super. Et puis après, bah, tous les événements qui existent, toutes les publications aussi qui sont faites par ULI sur des sujets de fond. Je participe, enfin, je pilote le groupe de travail sur les locataires dans le cadre du Product Council de la décarbonation pour ULI. L'objectif, c'est de sortir un rapport qui donne des clés de lecture et en tout cas guide, enfin, évocation à pouvoir servir de guide sur qu'est-ce que la décarbonation, comment la mettre en avant vis-à-vis de ses locataires, comment essayer de la valoriser, de la monétiser. Donc ça, c'est des réflexions qui, je pense, nous animent tous, que ce soit toi, tu vois, dans ton rôle chez Airdam, que ce soit moi en tant qu'investisseur. Donc, je trouve ça hyper intéressant de croiser les approches et de travailler ensemble, en fait, ce qu'on n'a pas vraiment l'occasion de faire, sauf quand il s'agit de notre boulot au quotidien.
De pouvoir mobiliser l'ensemble des acteurs du secteur autour des sujets qui finalement touchent tout le monde, mais sous des angles très différents.
Ça, c'est vraiment une très grande richesse. C'est bien que c'est une question à perdre.
Parfait, merci beaucoup Laurence. J'étais ravie de t'accueillir aujourd'hui et peut-être à très bientôt.
Ouais, à très bientôt.